préhistoire traitait-on les maladies mentales? Pourquoi, au XIXe siècle, s'est-on mis à stimuler le clitoris des femmes pour soigner l'hystérie? Que savons-nous sur la psyché humaine et comment l'avons-nous appris? De la trépanation jusqu'aux neurosciences, en passant par Pavlov, la méthode Coué et Freud, une bande dessinée se donne pour mission de répondre à toutes ces questions. L'incroyable histoire de la psychologie, aux éditions Les Arènes, de Jean-François Marmion et Pascal Magnat, elle retrace la façon dont on traitait jadis et traite aujourd'hui ce qu'on a appelé les fous ou encore les aliénés. Et c'est un livre très réussi parce qu'on y comprend beaucoup de choses, mais surtout parce que c'est très drôle et aussi irrévérencieux vis-à-vis des grandes figures de la philosophie et de la psychologie. Jean-François Marmion est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, psychologue, et puis depuis une dizaine d'années déjà, même une quinzaine, vous vous consacrez à la vulgarisation de votre discipline. Vous êtes notamment le scénariste de Cerveau Comics ou encore des Rescapés du Burnout. Alors pourquoi justement est-ce que vous pensez que c'est important de vulgariser le savoir sur la psychologie, à quoi ça peut servir pour le commun des mortels de se familiariser avec ces sujets-là?
Je pense que assez peu de gens savent ce que c'est vraiment que des psychologues. C'est très varié. Il y a des gens qui pensent que les psychologues sont un peu comme des astrologues. Il y en a d'autres qui pensent que c'est des psychanalystes, d'autres qui pensent qu'ils donnent des médicaments. La psychologie est très très mal connue. Et il faut dire qu'elle est très variée, elle est très diverse, elle est très complexe. Les psychologues se tapent dessus tout le temps. Donc, même nous, c'est pas facile de nous y retrouver.
Bon, alors, si vous deviez donner une définition rapidement d'un psychologue, vous diriez quoi?
Alors, le psychologue, étymologiquement, c'est quelqu'un qui étudie la pensée ou le psychisme. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'on a entre les oreilles. Pourquoi on pense comme ça? Pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi on fait ces choix-là? Pourquoi on est marqué par ceci et pas par cela, comment on communique, comment on se souvient, tout ça c'est la psychologie.
Alors il y a un ressort comique important dans ce livre, c'est le personnage de Freud. C'est lui qui prend la parole au début, il veut parler de lui, dire qu'il est le père de la psychologie, qu'il a découvert l'inconscient, et puis vous l'interrompez en rappelant qu'il n'est pas du tout l'inventeur de l'inconscient, qu'on parlera de lui mais que ça arrivera plus tard dans l'histoire. Il est super vexé. Alors j'ai plusieurs questions à ce propos. Déjà, c'est quoi l'inconscient?
Il y a plusieurs définitions de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce dont on n'a pas conscience, mais ça peut être évidemment très varié. Ça peut être des espèces d'automatismes qu'on a en nous qui font qu'on réfléchit trop vite.
Oui, parce que c'est un truc dont on n'a pas conscience, mais qui a beaucoup d'effets sur notre quotidien.
Absolument. Ça peut être des choses, pour les psychanalystes, c'est des choses qu'on refoule, qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas avoir dans le champ de notre conscience. Pour des neuroscientifiques, ce sera plus lié à l'attention, à ce qu'on appelle la mémoire de travail, ce qui nous occupe à l'instant T. Donc l'inconscient, c'est très variable, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une grande part de l'inconscient qui détermine notre comportement. Et on est persuadé qu'on maîtrise tout. On est persuadé qu'on se connaît, qu'on sait pourquoi on agit comme ça, qu'on sait qui on est, qu'on a un moi défini et immuable. Ça se passe pas vraiment comme ça. On a un inconscient, et quelles que soient les valeurs qu'on lui attribue, que ce soit de la psychanalyse ou des neurosciences, il faut compter avec.
Bon, mais alors si c'est pas Freud qui a inventé l'inconscient, qui c'est?
Mais personne. L'inconscient, c'est une notion dont on parle tout au long du 19e siècle, en langue allemande, avant Freud, et en langue française aussi, dans des auteurs qu'il a lus, qu'il a commenté en sa correspondance avant de développer la psychanalyse. Et l'inconscient, ça hante tout le monde depuis les débuts de l'hypnose, qu'on appelait à l'époque le mesmérisme ou le magnétisme, c'était à la fin du XVIIIe siècle. Ça hante le romantisme, déjà, il est beaucoup question d'inconscient, le romantisme, c'est appelé comme ça ou pas, mais il y en est question. Et Freud arrive à un moment où il va synthétiser tout ça dans une théorie qui va s'appeler la psychanalyse. Mais aujourd'hui, enfin, tous les historiens sont d'accord pour dire que Freud n'a pas découvert l'inconscient, même s'il aimait bien par coquetterie se présenter comme le conquistador de l'inconscient, il n'a pas découvert, il a proposé une théorie de l'inconscient qui a très bien marché dans l'imaginaire populaire.
Alors Freud, justement, vous le présentez comme quelqu'un d'assez imbu de lui-même, qui recherche la célébrité, qui accepte pas du tout la contradiction. Il était vraiment comme ça ou c'est juste parce que c'est drôle?
Ah non, il était vraiment comme ça. Il a exclu les disciples qui lui faisaient de l'ombre, qui contestaient ses théories. Il a viré quand même mal propre son disciple Carl Jung, parce qu'il avait pas la même conception de l'inconscient que lui. Enfin, non, il se comportait vraiment en chef d'école. Pour sa défense, il n'était pas le seul. tous les grands
c'est vrai, hein.
Quelque chose à se reprocher. Alors, faut me reconnaître quand même que dans cette BD, ok, je les gratine un peu, mais je gratine les autres aussi quand ils le méritent.
D'ailleurs, vous avez un personnage préféré ?
Alors, dans le scénario, moi, je me suis régalé avec le personnage de Freud, parce que voilà, c'est le vieux bougon, mais en même temps, il est malin, et il est incontournable. Bref, c'est le type qu'on adore détester, ou qu'on adore adorer. Il est incontournable. Mais j'aime aussi beaucoup Timothy Leary, un prof de Harvard qui a commencé sa carrière sous les auspices académiques les plus ordinaires, et puis qui a fini par découvrir les hallucinogènes et le LSD, et qui est devenu l'ennemi public numéro un de l'Amérique. Ça, c'était quand même... c'est quand même pas n'importe quoi, qui a fréquenté les Beatles, qui s'est retrouvé en prison plusieurs fois, qui s'est évadé dans des circonstances rocambolesques. Enfin, voilà, j'aime bien ça. Puis j'aime bien Jung, qui allait très très loin, lui, dans l'exploration de son propre inconscient, qui est vraiment aux limites de la folie, et qui a fait des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui.
Le premier étonnement qu'on a à la lecture de votre livre, et là on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire, c'est que vous faites remonter l'histoire de la psychologie à la préhistoire et à la trépanation. Pourquoi ?
Ben, on a retrouvé pas mal de crânes trépanés. On ne sait pas trop pourquoi, mais apparemment les gens avaient survécu à leur trépanation. Donc est-ce que c'était...
Vous dites 4% des crânes retrouvés datant d'il y a 10 000 ans portaient des traces de trépanation. 4%,
oui, c'est énorme. Oui, apparemment oui. Donc pourquoi on est trépanés, ces braves gens ? Bah, on ne sait pas, évidemment, il n'y a pas de texte. On peut supposer que c'était pour les soigner ou pour corriger leur comportement. Jusqu'à la Renaissance, on pensait par exemple qu'il y avait une pierre de folie qu'on pouvait extraire du cerveau de quelqu'un. Il y a toujours eu des contradictions entre les approches qui pensaient que les troubles mentaux étaient mentaux. Donc, c'était immatériel, c'était peut-être un esprit, peut-être une divinité, peut-être le diable, etc. Et puis, d'un autre côté, il y avait des gens qui avaient une approche plus médicale, plus organiste, qui disaient non, les troubles mentaux, c'est des humeurs qu'on a chez nous qui sont déréglées, ou alors c'est une pierre de folie. Voilà. Enfin, et jusqu'à notre époque, on trouve cette contradiction entre des gens qui considèrent que les troubles mentaux, c'est mental, c'est à cause de notre vécu, de nos relations, etc. Puis d'autres qui disent non, c'est surtout génétique, ou surtout cérébral. Mais je pense que les deux approches sont tout aussi valables. On a une vulnérabilité génétique à tel ou tel trouble. Et puis il y a des événements de vie qui font qu'ils se déclenchent ou pas.
Il y a un autre sujet important dans votre histoire de la psychologie, c'est les femmes, la place des femmes dans l'histoire de la psychologie. Alors d'abord en tant que patiente, déjà, parce qu'elles ont été traitées quand même assez différemment et très particulièrement. Et on peut lire finalement une histoire de la domination des hommes sur les femmes dans l'histoire de la psychologie. Comment la psychologie a traité les femmes ?
Très mal. En fait, depuis la philosophie antique jusqu'à la médecine du début du XXe siècle, on va dire, et même peut-être un peu au-delà, les femmes étaient considérées comme des hommes ratés. Voilà, c'était des hommes imparfaits et elles étaient mues par leur utérus. Hystérique, ça vient de là, ça vient étymologiquement d'utérus. Au XVIIIe siècle, on disait toute la femme est dans l'utérus. Et dans l'Antiquité déjà, on pensait que la femme était biologiquement inférieure à l'homme, qu'elle était froide, qu'elle était humide, qu'elle était lourde, tout ce que vous voulez.
Ça, c'est Aristote.
qu'elle était impure, que tout ça.
Alors d'ailleurs, que ce soit à l'Antiquité ou à la Renaissance, on pratiquait des fumigations devant les femmes, devant leur utérus, justement.
Oui.
Parce
on pensait que l'utérus se promenait dans le corps, c'est un organe mobile. Et donc, il y a des problèmes psychologiques ou physiques des femmes qui pouvaient s'expliquer par ça. Leur utérus se baladait un peu partout. Alors, il fallait le faire revenir. Et donc, on faisait brûler des herbes entre leurs jambes pour que l'utérus se dise « Ah tiens, c'est pas mal, je vais redescendre parce que je préfère quand c'est sec. »
Ok.
Ah ouais, c'était la science, hein.
D'ailleurs, ceux qui ont fait la science, c'était des hommes aussi.
Bien sûr.
Mais on peut quand même citer la première thérapie comportementale qu'on doit à une femme. Hein, oui. C'est Marie Cover Jones. Elle est la première à avoir brisé un conditionnement, la peur des lapins chez un enfant. Mmh. On réalise en fait aussi, en vous lisant, à quel point la psychologie, dans sa forme actuelle, est une science assez récente. On découvre aussi parfois des choses qui soignent sans savoir encore expliquer pourquoi elles soignent. C'est le cas, par exemple, de l'EMDR qui soigne les traumatismes en nous faisant bouger les yeux. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est une pratique qui a maintenant pas loin d'une quarantaine d'années. Effectivement, quand on... Alors, c'est des protocoles très, très structurés, hein, mais bon, je schématise. Quand on pense à ce qui nous a traumatisé en remuant les yeux d'une certaine façon, sous l'égide d'un thérapeute, eh ben oui, ça allège notre souffrance, et ça nous permet de nous reprogrammer en quelque sorte, de penser autrement aux souvenirs. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il y a des théories sur lesquelles peut-être c'est calqué sur le sommeil paradoxal, parce que pendant le sommeil paradoxal, nos yeux vont de gauche à droite. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel qui arrive à passer dans la sphère plus intellectuelle et dans la sphère du langage. On ne comprend pas vraiment comment ça marche, mais il y a plein de trucs dont on ne comprend pas comment ça marche. Par exemple, aujourd'hui, on utilise des électrochocs encore, ça s'appelle l'électroconvulsivothérapie. C'est hyper encadré. Avant, on utilisait ça n'importe comment. Là, c'est hyper encadré. C'est vraiment en dernier recours. Et notamment, ça soigne bien les dépressions très très sévères pour lesquelles tous les autres traitements ne marchent pas. Mais c'est très très encadré, c'est très léger, et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ça marche?
Les mystères de l'âme humaine ou de la psyché, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, ce livre est passionnant et très drôle. Ça s'appelle L'incroyable histoire de la psychologie dans cette très belle collection des arènes bande dessinée. C'est signé de vous, Jean-François Marémion, mais aussi de Pascal Magnat au dessin. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.